Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui un podcast sur le one shot, les contraintes et les libertés que nous offre ce format lorsque l'on joue au jeu de rôle avec Emmanuel. Emmanuel, ça va la pêche?
Super.
Avec Vivien.
Salut.
Nous sommes également avec Yosei.
Coucou.
Nous sommes avec Chloé.
Salut.
Chloé, salut. Nous sommes avec Maxime. Avec Adrien.
Salut.
Et avec Natacha.
Salut.
Beaucoup de monde hein, pour ce sujet très intéressant, le one shot, contraintes et libertés que nous offre ce format.
Du one d'abord, shot, le format de podcast peut-être... qu'on fait chaque semaine.
Non, ce ne sera pas le sujet de ce podcast. Alors, peut-être d'abord définir. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la définition de ce qu'est un one shot pour les gens qui débarqueraient de la planète Mars?
Un one shot est au jeu de rôle ce que le coup d'un soir est aux relations sexuelles.
C'est finalement assez vrai, c'est ça qui est.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Est-ce qu'on peut donner une définition plus rigoureuse, peut-être moins.
Du coup d'un soir ou du moins.
Peut-être moins. Comment dire, analogique.
Charnel.
Enfin, je sais pas comment dire. Emmanuel.
Pour moi, c'est une partie se suffisant à elle-même et ne nécessitant pas d'enchaîner sur d'autres parties.
Adrien.
Alors, j'invite les auditeurs à analyser tout ce qu'on dit comme si on parlait d'un coup d'un soir, d'accord ?
Et là où du coup. Là où du coup je suis pas d'accord avec Adrien, c'est que le coup d'un soir sous-entend qu'on a surtout pas envie de revoir la personne derrière.
Ah non,
derrière,
pas forcément, non.
Plutôt qu'on va la jarter.
Ça,
alors que pour moi, le one shot peut être, et je pense qu'on va en parler abondamment, peut être au contraire un peu comme un petit teaser, quoi.
D'accord.
Genre, je suis un très bon coup, réessayez-moi.
D'accord, pour toi, le. Ah, ça, c'est intéressant. Pour toi, donc, le one-shot, on peut faire plusieurs one-shots d'un seul et même jeu, Emmanuel. C'est ça que tu veux dire?
Ouais.
Par exemple, tu fais un one-shot de Cthulhu, et du coup, tu te dis, je retournerai bien dans l'univers de Cthulhu à travers un autre one-shot. C'est ce
ça.
Que tu veux dire. Alors que le coup d'un soir d'Adrien suppose que j'ai essayé Cthulhu, je l'ai jeté et je ne l'ai jamais revu. J'essaye d'être clair.
Ma métaphore de coup d'un soir, c'est vraiment un coup d'un soir. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de. Il y a peut-être une suite ou pas, la question ne se pose pas pour l'instant.
D'accord. Mais en tout cas,
je vous propose un coup d'un soir. Ce soir, je vous propose un one-shot.
En tout cas, voilà, clairement, le one-shot.
Je ne demande pas d'engagement sur la
partie suite. D'un jeu de rôle qui est en elle-même, qui a en elle-même un début, une fin, qui a elle-même sa propre
narrative,
cohérence.
Narrative ou quelque chose du genre. Ouais.
D'accord.
Enfin, selon moi.
Dans ce cas-là, la plupart des one-shots que l'on fait pendant le podcast one-shot, ce ne sont presque pas des one-shots. Parce que parfois on s'arrête, parfois on décide d'arrêter après une scène très très ouverte où il n'y a pas vraiment un début et une fin.
Ouais, on ne conclut pas vraiment la relation.
On conclut pas toujours la relation. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que nous, finalement...
Petit matin, avant que la personne se réveille.
Avant les croissants, pas fin
c'est
des
ça.
Parties.
Ça veut dire que nous, finalement, à La Cellule, ce qu'on ferait, plutôt qu'un one-shot, finalement, pendant l'émission one-shot, c'est plutôt un premier scénar 2.
Ça dépend des jeux.
Ça dépend des jeux, voilà.
Ça dépend des jeux. Parce qu'en fait,
Adrien.
Il y a des jeux qui ne sont faits que pour jouer en campagne.
Ouais.
Type sur les frontières qu'on a testé, type Sens, Hagen, sans doute, je sais pas encore que... mais par exemple, Cthulhu, pour moi, Cthulhu, en fait, si on reprend la métaphore sexuelle, pour moi, Cthulhu, c'est vraiment un sex friend, quoi. C'est le mec avec qui on va faire un coup d'un soir, et puis plus tard, on fera un coup d'un soir, et on fait pas de campagne de Cthulhu. Nos personnages meurent, deviennent fous, enfin...
Alors, c'est vraiment... ta pratique de Cthulhu. Là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui bondissent parce que, bien sûr, il y a des campagnes mythiques de Cthulhu, hein, les Masques de Nyarlathotep, la campagne de l'Orient Express, on peut également citer les Montagnes Hallucinées et les Sombres Rejetons d'Azathoth, il me semble, les Rejetons d'Azathoth, qui sont des très très bonnes campagnes de Cthulhu. En tout cas, moi, je les ai vraiment kiffé de les faire. Donc voilà, mais c'est effectivement ta pratique et également, faut le dire, faut le reconnaître, la mienne aussi. C'est-à-dire que moi, je joue très beaucoup en campagne à Cthulhu, mais je joue aussi énormément one shot à Cthulhu.
Quand on vient ici, c'est un peu la tradition de faire une petite partie de Cthulhu.
Ouais,
à chaque fois, nos personnages meurent à la fin. Ouais, voilà. Cette fois-ci.
Là, c'est un des meneurs qui meurt au début.
C'est
pour ça qu'on l'appelle. Mais ouais. Par contre, je me demande, ça dépend des pratiques aussi, mais moi, en ce qui me concerne, le one shot, c'est un peu un passage obligé. Je suis jamais rentré dans une campagne sans avoir fait un one shot avant.
Pensez à nous à la métaphore, s'il vous plaît.
Bon, Adrien, tu vas pas
on
nous couvrir le podcast. On va essayer de reprendre
raison.
Un peu de sérieux dans ce podcast, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous permet le one shot maintenant en tant que meneur ou en tant que joueur d'ailleurs? Je vais vous interroger d'abord, on va rentrer dans le cadre classique. Je vais d'abord vous interroger en tant que meneur de jeu, puis en tant que joueur, puis ensuite on parlera d'autres types de jeux. Alors, que vous permet le one shot en termes de en matière de meneur de jeu, on va dire?
Bah déjà de varier les plaisirs.
Non mais oui, mais tout à fait.
Mais tout à fait, quand on voit le temps dont on dispose et le nombre de jeux qui existent, de partenaires ludiques, on va dire, pour filer la métaphore d'Adrien. Bah
c'est
voilà,
pas possible,
c'est
quand
si en plus on a des prétentions, on va dire, de game design, si on a envie d'écrire des jeux, on a envie de tester un maximum de jeux et c'est ce que le one shot nous permet.
Exactement. Ouais.
Avant peut-être un jour de trouver le bon. Et de s'installer.
Bon, Vivien, ça va. Pardon. Ne nourris pas le troll, s'il te plaît, parce que là, si... Et puis alors, Adrien, tu mets une thune dans le bastringue, il s'arrête plus. Hein.
Ah bah ouais.
Yo, en tant que meneuse de jeu, préparer un one shot.
Alors moi, je suis meneuse de jeu très occasionnelle. J'ai jamais fait de campagne. Bah, du coup, je ne fais souvent
que
des
one
shot. Oui.
Alors, parle-nous, pourquoi est-ce que tu penses que tu ne fais que des one-shots et pas des campagnes, justement?
Simplement par un manque de temps et d'investissement, honnêtement.
Eh bien oui, mais attendez, c'est très important. Enfin, c'est un argument majeur du one-shot, je trouve, ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que le one-shot, pour un meneur de jeu, c'est aussi moins de temps passé à préparer un truc. C'est aussi plus rapide, plus facile, plus séduisant.
Et puis aussi, c'est plus facile de rassembler des joueurs, parce qu'avoir des joueurs qui tiennent le coup sur une campagne sans qu'elle soit abandonnée en cours de route, qui autour de cette table a fini toutes les campagnes qu'il a commencées? Moi, pas. Donc,
Non, moi, j'ai pas fini toutes les campagnes.
Donc,
ne serait-ce que 100, hein.
Oui, pour l'instant, on aurait du mal à le finir, mais... enfin, voilà, donc c'est différentes raisons qui font que je me tourne plus vers le one-shot, puis... Peut-être que j'ai une vision aussi de, pour un débutant, ça a l'air plus facile de se concentrer sur un scénar, déjà de gérer ça, puis de voir si par la suite on a envie de continuer ou pas avec les joueurs, voilà.
Toi, Chloé, tu n'as pas mené, je crois pas, encore.
Non.
Tu as été joueuse.
Jamais, enfin, c'est ce que j'expliquais.
On aura ton
déjà.
Point de vue de joueuse après.
Voilà, exactement.
Passe le micro à Shadow qui nous a rejoint. Shadow, ça va?
Bonjour, ça va très bien.
Ouais. Alors toi.
Donc je prends en cours de route. Merci de me gratouiller. Je suis un peu dans la même idée que Osei, hein, évidemment. Nous, on se sert des one-shots pour découvrir un jeu, donc, comme disait Emmanuel. Et comme on a des joueurs qui nous ont clairement dit « Ouais, les campagnes, c'est beaucoup de temps, etc. » Donc, on passe par le one-shot, on en essaye plusieurs, et puis quand on en trouve un qui nous plaît, allez, on essaye.
D'accord.
Enfin, voilà, aujourd'hui, en tout cas, on en est là.
Adrien.
En tant que meneur,
il y a plein de choses.
Alors, déjà, le one-shot de test gustatif du jeu, en fait, je ne le présente pas comme ça. En général, je dis, bon, on va commencer la campagne. Et la première partie, ben, de toute façon, vous pouvez toujours dire au revoir à la fin. Quoi. Ouais. On en discutera après. Ça peut être classé comme un one-shot dans ce sens-là, mais ça n'a pas tout à fait les mêmes, les mêmes particularités.
Du coup, est-ce que tu t'arranges quand même pour qu'il y ait une fin à ce premier scénario, ou est-ce que du coup, s'ils veulent pas rejouer, ben tant pis.
Alors là, je parle bien des jeux que je vais jouer en campagne. Donc Sens, par exemple, je ne fais pas découvrir à des joueurs qui seraient intéressés. Enfin, si j'ai envie de jouer en campagne, je me pose la question, est-ce que je vais jouer en campagne avec ces gens-là? Je vais pas leur dire, je leur propose un one shot et après on commence à la campagne. Je leur dis, je vous propose le début de la campagne, on teste. Et soit on continue, soit on continue pas. Et là, donc là, c'est quand on parle de campagne.
Donc, tu vois, c'est un petit peu comme quand on teste le format one shot à la cellule. Quand on teste le format one shot, c'est ce qu'on fait. On fait le premier scénar de la campagne en général ou ce genre de choses.
Oui, un scénar du bouquin ou un scénar typique.
Quand on parle de jeu de rôle classique, hein, toujours.
Ouais,
hein.
Bien sûr. Quand on avait fait Hurlement, c'est ce qu'on avait fait.
Tout à fait.
Le one shot en tant que MJ. Qu'est-ce qu'il me permet? Alors moi, je l'ai beaucoup utilisé pour explorer des scénarios farfelus.
Oui.
Qui, en campagne, seraient trop pénibles.
Ils sont pas fiables.
Ou sont pas fiables. Voilà.
Ils sont pas durables, on va dire.
Ouais,
c'est le trip d'un soir.
Ouais, voilà. C'est vraiment l'idée. J'ai une idée à la con. Enfin, une idée géniale ou un truc tortueux ou quelque chose comme ça. Et je vais en faire une partie.
Ouais.
Type un scénar de Cthulhu où la problématique, c'est à un moment donné... ben les PJ, on va échanger leur cerveau dans le corps de quelqu'un d'autre.
Tout à fait.
Donc c'est le cœur du scénario. Ça me fait une super intrigue pour le one shot. Ça va tourner autour de ça. Je vais réfléchir autour de ça pour l'amener, pour que ça pose des problématiques.
Ou un scientifique qui brandit un concombre géant en disant pour la science.
C'est ça, exactement.
Et cette scène va
structurer toute une partie.
Va structurer toute une partie. Voilà,
exactement. Et donc le one shot dans ce cas-là, pour moi, c'est et d'ailleurs souvent. Enfin, c'est rare qu'il soit vraiment associé à un jeu en particulier. C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait que je conçoive le jeu qui va bien autour pour explorer cette thématique-là. Mais des fois, on a la flemme, alors on fait des rillettes avec Toulouse et puis c'est parti, quoi.
C'est ça.
On échange des cerveaux. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être... Bah, je crois que c'est à peu près tout.
Tu crois pas qu'il y a aussi une dimension dans le one-shot de liberté vis-à-vis de l'histoire? C'est-à-dire que, par exemple, dans un one-shot, je trouve que c'est très très facile de pouvoir, par exemple, tuer des personnages. Là où, par exemple, c'est impossible dans une campagne. C'est-à-dire que t'as une liberté, il peut se passer... J'ai envie de dire, tout peut arriver dans un one-shot. Alors que dans une campagne, il me semble qu'il y a une structure où les joueurs vont être en groupe. Non, tu crois pratique. Pas
Après, oui, non, c'est vrai que je ne rends pas justice. Quand je disais que je ne faisais pas de one-shot pour faire découvrir un jeu, j'ai beaucoup fait jouer en convention des jeux où je faisais jouer des scénarios qui étaient là pour faire découvrir un jeu, type Sens, que j'ai beaucoup fait jouer en convention. Et donc là, effectivement, je ne faisais pas le premier scénario de la campagne parce qu'il n'est pas... Enfin, c'est pas un groupe avec lequel j'ai envie de continuer derrière, donc je préfère faire un scénar qui leur montre un petit peu les problématiques du jeu. Donc soit c'était Akina, soit c'était Blue Sky, soit c'était la double table qu'on s'était conçue
avec Shadow.
Avec Shadow. Le scénar Koh-Lanta.
Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ça surtout que je trouve, c'est que le one-shot rapproche le jeu de rôle du jeu de société en un sens. Et donc, on peut accepter qu'un joueur perde à un moment donné. Alors, pas, forcément pas au début. S'il perd dès le départ, c'est nul. Mais si ça arrive au moment paroxystique du scénario de l'épreuve, ça peut le faire. Quoi.
D'ailleurs, ça me permet de justifier pourquoi je ne joue Cthulhu que comme ça. C'est parce que pour moi, un personnage de Cthulhu est un humain qui devient fou, qui se fait tuer. Et donc, jouer sur une campagne, ça veut dire ne pas avoir le droit de tuer un personnage. Alors ou alors utiliser des gimmicks pour faire revenir en fait, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. Voilà,
souvent, il y a un carnet qui va se diffuser entre, par exemple, le docteur Jones, qui est plus vieux, et professeur Jones.
C'est des solutions élégantes que j'ai vues dans les campagnes, mais je ne les connaissais pas. Enfin, je n'ai jamais joué de campagne de Cthulhu, je ne les ai jamais lues. Donc, c'est vrai que pour moi, en tant que lecteur de Cthulhu, j'ai lu le bouquin de Cthulhu, qu'est-ce que je vois? C'est que un perso, il fait un scénar... il en fait difficilement un deuxième, quoi. Donc, s'il meurt dans une partie, faut pas dire au joueur tu reviens pas à la prochaine partie parce que tu comprends, t'es mort.
Et du coup, parlant aussi des contraintes liées au jeu de rôle et au jeu de plateau, ça me fait penser à ce que disait Yosei tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans le jeu de rôle one-shot qui est que comme on a les mêmes contraintes que le jeu de plateau, on n'a pas besoin que les joueurs soient disponibles toutes les semaines, tous les mois, des dates précises. Et donc, ça rend forcément le jeu de rôle plus accessible, on va dire. C'est ça que tu voulais dire, il me semble, Yo.
Oui, c'est ça. Puis ça a une notion aussi de liberté. On joue une fois de temps en temps, on ne s'engage pas. Ouais. Nous, on a des joueurs qui se sentent un peu contraints par des campagnes parce qu'un engagement toutes les semaines, par exemple, ça va tomber un soir, ils n'auront pas envie de jouer. Si c'est pour avoir des joueurs qui se sentent obligés, on perd le plaisir aussi. Donc, pour en revenir à la relation d'un soir, c'est le petit côté liberté. Je prends le plaisir quand j'en ai envie et voilà.
Et ça joue beaucoup dans cette société, et surtout à nos âges, j'ai envie de dire, où forcément les contraintes professionnelles, personnelles, familiales commencent à arriver, et où donc le one-shot finalement s'impose comme la seule manière de pratiquer le jeu de rôle presque. Hein. Donc ça joue aussi, il faut quand même en parler de cet aspect un peu méta. Alors en tant que meneur de jeu, est-ce que vous avez la sensation que les one-shot vous permettent d'autres choses que ce qu'on a évoqué là? C'est marrant, je m'attendais à ce que vous ayez pas mal de choses à dire sur ce point-là.
Non, moi j'appuie vraiment le côté expérimental que soulève Adrien. Et autant d'ailleurs pour le scénario que pour l'aspect règle, puisqu'on sait qu'avec tous ces jeux dysfonctionnels, il faut souvent adapter et vérifier que ça fonctionne avant de se lancer.
Alors j'en profite justement, tiens, tant que tu parles de jeux dysfonctionnels et que tu lâches ce gros mot un peu, je reçois beaucoup de commentaires de la cellule au sujet de ce mot sur le dysfonctionnel. Ce n'est pas parce que la cellule juge qu'un jeu est dysfonctionnel que c'est forcément un mauvais jeu, parce que parfois il suffit de peu
Un jeu injouable.
Un jeu
Un jeu dysfonctionnel n'est pas injouable.
Voilà, c'est ça, parce qu'il suffit parfois de peu pour rendre le système de ce jeu tout à fait fonctionnel, un contrat social clair avec les joueurs, peut faire d'un jeu dysfonctionnel un jeu très correct. Ouais, tout ce qu'on veut dire par le jeu dysfonctionnel, c'est qu'il va y avoir besoin de l'intervention d'une tierce personne, soit le meneur de jeu ce soir-là, soit un joueur expérimenté qui sait ce que c'est qu'un contrat social, etc., pour rendre le jeu agréable à jouer et fonctionnel. Voilà,
Je précise juste ça parce que souvent on dit c'était histoire de dire quelle est la règle adaptée, qu'est-ce qu'on autorise comme armure, des conneries comme
ça. Voilà, tout à fait.
Sachant que c'est normal, on n'aime pas trop changer les règles en cours de campagne en disant merde, ça fonctionne pas. Bah oui, mais tu me l'as autorisé le scénar précédent. Ouais.
On peut très bien imaginer au cours d'une campagne faire un one shot dans lequel, par exemple, le thème, ça va être un petit peu ce que Frédéric Sintès a fait avec Orphéan Rhapsody, c'est-à-dire le thème, ça va être de faire un épisode musical, par exemple. Et donc, en plein milieu de la campagne, on se retrouve avec un quadrilla, par exemple, qui fait chanter les bugs pour diverses raisons, pour faire un nombre pouvoir ou pour un truc comme ça. Ça a été fait. Ça a été fait, Natacha, je te vois grimacer.
Non, pas grimacer, non, sourire, c'est rigolo.
Ça a été
rigolo.
Fait. Et donc, ça peut être vraiment sympa. Non, je veux passer la parole à Shadow, ça fait 15 points qu'il la demande. Mais le problème, Shadow, si tu veux, c'est que tu demandes la parole, mais quand je te parle la parole, après, tu dis « Eh ben oui, j'ai oublié ce que je veux dire ». Donc,
exactement.
Du coup, maintenant, je
du coup, là, j'ai
prends un papier et un crayon.
Oh, non, c'est pas vrai, possible. Non, Yossi, il me faisait remarquer quelque chose de juste, c'est qu'on a une autre utilisation du one-shot. Alors là, c'est peut-être plus lié à moi qu'à notre groupe, mais j'aime bien tromper mes joueurs.
Ah
ouais, c'est...
Alors, je l'ai utilisé dans Sens et dans,
Adrien
et dans Warhammer. Par exemple, dans Sens, j'ai fait jouer des super-héros, alors sans dire qu'on jouait à Sens. Voilà. J'ai fait jouer des super-héros, on a fait Marvel et Rose, on en a déjà parlé. Et puis en fait, c'était plus pour explorer la condition d'un quadrilla de vie qui se découvre et qui ne sait pas vraiment quelles sont les règles de son monde. Mmh. Donc voilà, ils ont joué des super-héros, ils ont été contactés par un être accompagné de deux anges. Enfin voilà, vous verrez tout de suite le parallèle. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est une partie méta de Sens pour mieux comprendre les quadrillas. Voilà, il y a eu ceci. Et dans Warhammer, j'ai utilisé aussi le jeu zombie. Non, Deadlands, sans leur dire qu'on jouait à Warhammer, en fait, et ils étaient dans une sorte de cauchemar où il fallait faire certaines choses pour s'en sortir. Donc j'aime bien utiliser le one-shot pour tromper un petit peu le joueur.
Alors Adrien, tu es le spécialiste de ça, vraiment, alors là...
Ouais, c'est un c'est truc que j'aime beaucoup faire.
Ah ouais.
Et en fait, c'est vrai que le one-shot permet de jouer sur le contrat social, c'est-à-dire leur dire on va jouer à ça, alors qu'en fait c'est complètement autre chose. Parce qu'au final, si jamais ça plaît pas aux joueurs, ben, ça reste qu'une partie. Et ça permet quand même de mettre une claque aux joueurs. J'ai pas mal fait ça.
Alors, juste pour préciser, tu as carrément même une partie de jeu de rôle que tu proposes qui n'est pas d'un jeu de rôle du commerce.
C'est ça.
Qui joue là-dessus. C'est-à-dire qu'au cours de la partie, on va changer 4 fois de contrat social.
Ouais, voire plus.
Voire plus. Mais bon,
c'est
on va dire 4 fois.
Que j'ai conçu avec mon ancien colocataire, Caillot, si tu m'écoutes ou si. Voilà, bisous.
Je crois qu'on en a déjà parlé.
Qui est né, on n'avait même pas bu. Autour de...
oui,
non, mais vraiment, c'est important à préciser.
Hein.
C'est né autour de 3... En gros, il y avait un concours de scénar pour une convention, je ne sais plus laquelle, et on a commencé à délirer là-dessus. Et on a eu des idées qu'on avait envie de mettre. Et au final, on les a toutes mises. La première, c'était faire jouer un truc archétypal, donjons et dragons, pénible, avec des lancers de toutes sortes de dés, des calculs compliqués, des trucs vraiment pénibles, où on tue des gobelins, puis on a des gentils héros, puis un vilain sorcier, et puis... Et à la fin, quand on tue le vilain sorcier, on se rend compte que c'est un
gardien
de phare breton, jouant haut de son phare, et là, c'est jouer le contre-coup du... Mais en fait, tout ce que vous avez fait en vrai, là...
C'était une fête d'étudiante où vous étiez drogué, et vous vous preniez pour une partie de donjon. Alors, je le vois... Yosei et Shadow qui trépignent, j'ai l'impression que vous avez fait un jeu.
Non, similaire. C'est juste que je l'ai joué ce scénario en convention. C'était ma première rencontre avec Adrien. voilà.
C'est
et donc,
pas vrai.
Et en plus, j'avais emmené une copine à moi qui est très peu rôliste. Elle est plus rôliste par son copain. Et donc, je lui ai fait tu vas voir, Adrien, Shadow m'a dit que c'était un MJ génial,
oh
on va trop s'éclater et tout, machin. Et je l'ai emmené là-dessus. Je crois que la pauvre, elle s'en est jamais remise.
Tu m'étonnes. C'est surtout ne jamais rencontrer Adrien. Sur ce scénar là, enfin c'est pas bon. D'abord, c'est pas ton meilleur scénar, Adrien,
non,
parce qu'il est extrêmement, il joue beaucoup sur cette trip de contrat social, mais il laisse finalement assez peu de liberté
oui,
aux
oui,
joueurs.
Oui,
c'est beaucoup. C'est, délire, c'est le côté WTF en fait qui est sympa, quoi, le what the fuck. Mais en dehors de ça, c'est vrai que d'un point de vue liberté dans le scénar, on en avait un petit peu parlé à la barreau aussi, parce que nous on l'a joué à la barreau. Moi je connaissais le scénar quand je l'ai joué, donc ça a changé un petit peu mon optique sur le truc.
C'est vrai que les autres joueurs avaient été.
Les autres joueurs le connaissaient pas. Alors ça, c'est un truc que je voulais, sur lequel je voulais revenir, qui est important, c'est que le one shot n'est pas spécialement le lieu idéal pour tromper les joueurs sur le contrat social. C'est vous, vous l'utilisez comme ça parce que...
Moi, je le vois comme lieu idéal. Hein.
D'accord. Pour moi, c'est le lieu idéal pour jouer avec des contrats sociaux différents, pour faire varier des contrats sociaux, mais tromper les joueurs... Enfin, moi, je suis désolé, mais par exemple, dans une campagne, quand parfois le contrat social disjoncte, ça peut créer de très très bonnes sensations.
Ouais, mais dans des campagnes, si le contrat social change aussi brusquement que ce que je peux proposer dans certains scénarios... tu peux avoir un joueur qui dit non, mais en fait, je m'arrête là, quoi. Ça m'intéresse plus.
C'est vrai.
J'ai pas signé pour
c'est vrai
ça.
Que tu risques.
Plus, j'ai pas signé pour ça. Dans un one shot, ben, il a pas signé pour ça. Il lui reste peut-être une heure ou deux à tirer. Au pire, il se barre. Hein,
au pire,
c'est
il se barre.
Grave. Mais la campagne, c'est.
Tu parles des joueurs qu'on a perdus une fois qu'on est passé à néant, c'est ça?
Ouais, par exemple. Ouais. Non, mais
complètement. Ouais.
Moi, la plupart de mes joueurs ont beaucoup aimé Sens Renaissance et Sens Mort, et Sens Néant, ils sont beaucoup plus partagés.
Ouais.
Alors que moi, je tripe. Enfin, c'est ma partie préférée, mais.
Donc voilà, enfin bon, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais dire ça, c'est que le changement de contrat social n'est pas le propre de
c'est plus
one shot.
C'est plus puissant en campagne.
La preuve, c'est que dans le sens, je le fais.
C'est plus dangereux, enfin c'est plus risqué en termes.
Voilà, c'est risqué, mais bon. Ça...
Le one shot permet d'autres choses aussi. Shadow. C'est s'essayer au rôle de maître du jeu ou de maître de cérémonie. En l'occurrence, voilà, Yosei a récupéré l'appel de Cthulhu. Elle va pas attaquer. Voilà, tout à fait. Et elle va pas s'essayer direct à une campagne, quoi. Elle va d'abord passer par un one shot. Elle va se rendre compte qu'il y a certains défauts. Tu viens de comprendre la blague?
Alors, moi, je l'ai pas entendu.
De le faire remarquer, hein.
J'ai pas entendu la blague, c'est quoi?
Bah, maintenant, elle peut faire des châteaux de sable. Parce qu'elle a récupéré l'appel de Cthulhu.
Oh putain! Non, je l'avais pas entendu. C'est que j'avais pas entendu.
Ouais, tu parles, Romaric, tu parles.
Et mes auditeurs non plus. Donc, j'ai avec moi 15 000 témoins.
Si, ils ont entendu.
Donc, où en étais-je?
Donc, tu disais que justement, le one shot permettait d'initier les gens.
Et surtout, d'étalonner sa façon de maîtriser, parce que c'est ça. Elle a fait un premier scénario. Bon, elle s'est aperçue que voilà, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient pas, des retours qui étaient. Bon, bah, un deuxième one shot, et puis une fois qu'on a la bonne formule, on va dire,
oui.
Et ben on va pouvoir faire une campagne tranquillement avec les joueurs qui sont bien au courant de ce qui se passe, le maître de jeu aussi, et ça va couler tout seul. Quoi.
Façon de tester.
Parce que peut-être, mais là on parle justement de l'intérêt de faire un one shot, bah c'est ça, peut-être reprendre un peu les erreurs des. Voilà.
Ouais.
Si on le fait sur une campagne, le premier scénario de la campagne, il est un peu bancal, on essaie de rattraper sur le deuxième, enfin du coup on perd un peu le. On perd un peu l'essence du début de campagne, quoi.
C'est vrai, ouais.
Voilà. Alors, Emmanuel.
Moi, je m'en suis pas mal servi comme speed dating aussi, joueur. Je pense qu'en club, c'est une dimension.
Dis donc, un coup d'un sort comme speed dating, c'est.
On apprend des choses.
On apprend des choses. Hein,
non, je parle.
On s'en doutait,
mais. Je parle bien sûr de constitution de table et non pas de constitution de couple, voire de trio ou autre. Non, c'est vrai que je l'ai. En club, c'est vachement pratique. Parce que on t'a parlé d'un MJ, il a l'air sympa, il a l'air de faire de ses super parties, plutôt que de se lancer sur une campagne qui va durer
ça
un
a l'air
an,
d'être un bon
voilà.
MJ.
Concrètement, c'est ça.
On disait sur Adrien,
On dit Adrien, il est super comme MJ, bon, t'as envie de le tester avant de te lancer dans un an de campagne, deux ans, trois ans de campagne. Bon, moi, concrètement, j'ai continué ma table de sens comme ça en faisant.
Natacha, tu as testé Adrien?
Oui, parce que effectivement, le one shot de sens. Le one shot de sens par lequel j'ai commencé le jeu de rôle, c'était effectivement Adrien qui le maîtrisait. Donc,
Mais tu as raison de dire que c'est. Et alors là, c'est bien, parce que tu me permets de faire une excellente transition. Parce que j'avais dit qu'on allait voir l'avantage du one shot comme meneur, maintenant on va parler de l'avantage comme joueur. Et là en fait tu viens de faire la transition indirectement, c'est-à-dire
alors,
que tu viens de dire en tant que joueuse.
Que je l'ai fait dans l'autre sens aussi, c'est vrai que moi pour ma table de sens j'ai fait 3 ou 4 one shot je crois, dont un en convention. Et puis j'ai fait un patchwork de voilà, il y a presque une ou deux personnes qui sont venues de chaque table, d'abord parce que bon, ils ont kiffé le jeu. Mais aussi parce qu'ils se sont dit ça va passer avec la MJ et que moi je me suis dit ça va passer avec tel ou tel joueur. J'ai fait mon marché, j'avoue.
Chloé.
Mais effectivement, en tant que joueuse, puisque moi j'ai jamais été MJ, j'ai fait des one shot avec des MJ. Je ne referai plus du tout de JDR avec eux.
Et là, tu te dis toi, Vivian, heureusement que c'était. Et là, tu te dis heureusement que c'était un one shot en un sens.
Et je me dis heureusement que c'était un one shot en un sens, effectivement. Après. Après moi c'est assez aussi personnel, je suis pas une patiente, voilà. Et donc les campagnes c'est vraiment pas mon truc, mais effectivement il y a des joueurs en one shot, enfin des MJ en one shot, je rejouerai pas avec eux.
D'accord. Ouais.
C'est insupportable.
Ah, les conventions Oscours qu'on peut retrouver des fois quoi.
C'est vrai que c'est un format très adapté justement pour ceux qui jouent avec des personnes qui ne connaissent pas, se découvrir un peu l'un l'autre pour qu'il y ait quand même une affinité sur la table. Ah ça va.
Sur le lit.
Non mais qu'il y ait une affinité sur la table entre les joueurs, le MJ, c'est quand même important aussi quand on joue en club, comme disait Manu, elle fait son marché, elle recrute entre guillemets des joueurs, c'est quand même important de pouvoir tester qu'il y ait pas la moitié des joueurs qui filent en cours de route parce que finalement ils se rendent compte que ça passe pas entre eux, que ça passe pas avec le MJ, enfin voilà.
Ouais, je vois parfaitement. Alors, juste un point par rapport à ce que disait Adrien. Il disait, oui, en convention, parfois, c'est difficile avec certains joueurs. Je le comprends parfaitement. Je pense que c'est lié, justement, à des dynamiques de groupe et que ces joueurs-là, s'ils trouvent le bon groupe, seront parfaitement... Je pense que c'est plutôt parce que les gens viennent avec des attentes différentes en convention par rapport à tel jeu. On en aura parlé, on leur a vendu le jeu de telle manière. Et donc, voilà, il y a ces difficultés-là qui rentrent en ligne de compte. Ça joue beaucoup. Emmanuel, on va passer un micro à Emmanuel. Emmanuel.
C'est même pire que ça, en fait. C'est que souvent, en convention, on se retrouve non pas avec 5 personnes qui viennent de 5 endroits différents, mais souvent 2 ou 3 potes, puis 1 ou 2 potes.
Alors oui, il y a ça aussi.
Et du coup, on a une constitution de clan avec des habitudes de jeu différentes. Encore, ce serait des individus isolés, je pense que ce serait beaucoup plus malléable. Mais là, pour le coup, d'accord. ce côté entraînement et retrouvailles, bon, vous savez, c'est comme alors, se retrouver dans une soirée où tout le monde se connaît.
Après, on est peut-être en train de dériver. C'est pas vraiment le sujet de ce podcast, ces dynamiques-là, mais c'est vrai que le one-shot permet effectivement de tester des dynamiques de groupe et de pouvoir déjà savoir si oui ou non.
En fait, je trouve que c'est quand même important d'aborder le sujet de la convention, parce que la convention, c'est quand même l'entre le du lieu one-shot. Quoi.
Shadow a l'air d'être d'accord. Eh bien, très bien, abordons ce... Par contre, j'aimerais bien quand même qu'à un moment donné, on parle des joueurs en one-shot aussi. Hein, ça... Mais alors, que dire sur la convention et le one shot ?
Avant la convention, c'est un format que j'utilise aussi forcément en colo parce que les contraintes des colos qui durent 10 jours font qu'on ne peut pas faire de campagne. Donc.
Très bien.
Donc, pas de sens en marathon, non. Bah effectivement, non. Voilà, des one shots. Mais du coup, moi, je fais jouer des one shots de préférence, c'est pas toujours vrai, mais de préférence des one shots de jeux qui ne se jouent pas en campagne de toute façon.
Alors. Pourquoi la convention est le lieu du one-shot ? Bon, on peut l'expliquer rapidement. Une convention de jeux de rôle, ça a lieu sur un week-end.
C'est un club échangiste.
Il est évident que... Putain, mon Dieu.
c'est vrai, hein.
Non, mais... Bon, il est évident que... Oui, enfin bon... Bon, la métaphore sexuelle a quand même ses limites, non ?
Non, je t'assure que non. Et peut-être qu'un jour, on parlera du jeu qui peut se jouer tout seul.
Ah, d'accord. Hein ? Peut-être.
Tu verras la métaphore ce jour-là.
Donc, en tout cas... Oh mon Dieu. En tout cas...
Vous avez besoin d'un crayon.
Et d'une feuille de soupe.
Bon, écoutez là. On va arrêter tout de suite. Il faut de la structure dans ce monde. Qui c'est Mifos Cadrien là ? C'est toi, c'était censé être Mifos Cadrien, tu nous dis.
Ouais, c'est bon. Ça.
Donc la convention et le one shot. Évidemment, structurellement parlant, la convention, c'est le lieu du one shot parce qu'on est avec des gens qu'on ne va voir que quelques instants.
Ouais.
Voilà, qu'on ne va voir que pour un week-end ou presque.
Où on va tester des nouveaux jeux.
Et voilà, la convention, c'est aussi le lieu que les éditeurs et les indépendants et les amateurs choisissent pour présenter leurs propres jeux. Et donc c'est normal qu'ils veulent.
Moi, je vais même au-delà de ça, c'est que dans les conventions, il y a la majorité des parties ne sont proposées ni par des éditeurs, ni par des auteurs de jeux, ni par des indépendants, ni quoi que ce soit. C'est juste des gens qui sont fans d'un jeu, qui viennent le faire jouer parce que c'est aussi l'occasion de le faire découvrir.
Absolument. Ouais. Des meneurs qui veulent présenter leur manière de maîtriser tel univers.
Jeu, ouais, ça. Ouais.
C'est vrai que c'est plus souvent même le choix du jeu se fait par envie de faire découvrir plutôt que par facilité d'adaptation à la convention ou au public qu'on s'attend à voir. On arrive avec un côté militant sur ce genre de truc. Par contre, convention, il n'y a pas que des one-shots. Moi, j'ai vu des MJ qui s'amusaient, notamment sur Eclipse, à faire 5 scénars qui se suivaient avec pas forcément exactement les mêmes joueurs, mais c'est rigolo, aussi voilà, c'est une façon aussi d'aborder la convention de façon différente. Le one shot est
pas le seul format possible.
Bien sûr. Alors encore une fois, entre le one shot et la campagne, il y a un monde. Hein. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a plein d'autres formats. Par exemple, le burst dont on parlait tout à l'heure en préparation du podcast avec avec Adrien, qui est ce format, on va dire entre le one shot et la. C'est une campagne one shot, si j'ose dire. C'est-à-dire en 2-3 scénars, on a le jeu en entier. Et voilà. Et limite, la rejouabilité du burst est assez limitée parce qu'on peut. Donc il y a tout ça. On peut citer aussi les doubles tables avec des tables qui peuvent tourner, comme dit Emmanuel, avec des joueurs qui s'en vont, qui repartent, qui. Enfin, c'est très compliqué.
Les tables ouvertes. Hein, que
les tables ouvertes,
fait jouer
voilà.
Beaucoup Thomas Munier.
Tout à fait. Voilà, la campagne n'est pas forcément fermée, elle peut aussi s'ouvrir. Alors, je voudrais revenir sur les possibilités que les joueurs ont en one shot et qu'ils n'ont pas forcément en campagne parce qu'elles existent. À la fois dans l'interprétation de leur personnage, dans l'appréhension, dans la l'appréhension qu'ils ont d'un jeu de données. Yosei.
Pour moi, le one shot, c'est un peu l'occasion de se lâcher. Tout
simplement. Voilà, ça c'est vrai.
C'était ça, oui. Ben, c'est ce qui s'est passé un peu quand on a joué à Gaune avec Manu, c'est-à-dire qu'on a.
Je croyais que t'allais parler des chiens que tu voulais jeter à travers un portail.
Ah, ça va. Non, mais on a utilisé tous nos pouvoirs, on a essayé d'exploiter nos personnages à fond, même si on savait qu'en campagne on n'aurait jamais agi comme ça parce qu'on se faisait repérer. Enfin bref, voilà, c'était pas très malin de notre part. Mais c'est moyen de justement être pas très malin des fois, mettre un peu les pieds dans le plat et se lâcher, faire tout ce qu'on n'ose pas faire en campagne parce qu'on sait que ça aura des répercussions à l'avenir. Comme là, il y a pas d'avenir, pas de répercussions, on fait ce qu'on veut.
Alors, Natacha, je crois que ça va être.
Je voulais juste compléter en disant que c'était du coup, ça avait été du coup aussi l'occasion d'avoir des personnages extrêmement hauts en couleur, parce que de fait, ils se faisaient repérer tout de suite, mais au moins, d'accord, ils étaient très très marqués, quoi.
Ah, tu me surprends, Natacha, je pensais que tu allais dire autre chose. Ah ouais, Manu.
On peut aussi.
Mais je reviendrai après sur les inconvénients.
On reviendra, oui, d'accord, ça marche.
On peut aussi se permettre, sur du one-shot, d'aller beaucoup plus au clash avec les autres personnages, avec les autres PJ, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de composer pendant un long temps. Donc ça peut faire des conflits interperso assez intéressants.
Très
aussi.
Intéressant.
Ça donne une dynamique à la table qui est totalement différente.
Ouais. Moi, j'ai
Adrien, le grand sourire, méfiez-vous, chers auditeurs.
C'est juste un truc que j'avais oublié à dire en tant que MJ de One Shot, mais qui se retrouve aussi pour les joueurs. C'est qu'en fait, pour moi, donc toi, tu parlais de scénario burst, où c'est une mini-campagne, on va dire.
Tout à fait.
Pour moi, le One Shot, c'est aussi une manière de jouer qui se prête beaucoup à donner des prêts-tirés extrêmement fouillés et construits aux joueurs, et en gros de jouer le one shot un peu comme une murder party,
ouais,
sauf que sans les costumes.
Si j'ose dire, le one shot pour toi c'est un peu une manière de mettre en place un espèce de finale paroxystique dans une série et ne jouer que ça. C'est-à-dire comme si on jouait uniquement le dernier épisode de la série. Et donc quand on donne les persos, on donne toute la complexité des relations entre chacun et on va jouer le moment où ça va se résoudre dans le sang, dans la violence ou alors au contraire dans la joie et l'allégresse. C'est ça, ouais. De jouer.
Et du coup, ça on peut mettre des backgrounds de persos qui font qu'ils vont, ça va les pousser au conflit où on sait qu'à la fin ça va finir dans un bain de sang ou enfin ils ont des objectifs antagonistes, etc. Un petit clin d'œil à un MJ qui une fois nous a fait un background comme ça et qui à la fin ne voulait pas qu'on s'entretue. C'est une frustration énorme. Raté. Enfin bon, voilà, donc le one shot pour moi c'est aussi ça, c'est effectivement les conflits entre joueurs et c'est aussi le background riche et fouillé qu'on peut avoir. Parce que dans la campagne, en tant que joueur, on va vouloir construire tout son personnage, ce qui est normal. Hein. Et le one-shot, si on veut éviter l'aspect un peu cabotinage que t'évoquais Yosei, où on se donne à fond parce que c'est fun, je trouve que le background, c'est un moyen de cadrer le personnage pour un joueur qui n'a pas le temps de se mettre dans sa peau.
Après, quand je disais on se lâche, on fait un peu n'importe quoi, c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que si tu as un background qui va inciter par exemple au conflit entre les PJ, des fois en campagne, tu ne vas pas oser le jouer, même si ton perso se construit de cette manière. Mmh. Alors que là, ben, tu sais que justement, c'est le moment ou jamais qu'il faut y aller, il faut jouer à fond.
D'accord.
Ça permet aussi de s'investir plus dans un roleplay que tu n'aurais pas osé à d'autres moments. Comme je disais, c'est sauter le poids des répercussions sur le reste.
Ouais, donc tout en sorte de tout, quoi, en fait.
Voilà.
Vivien, puis
ouais,
Emmanuel.
Ça permet, en fait, ça rejoint un peu ce qu'avait dit Adrien. Ça permet aussi en fait, il y a des scénarios qui ne se prêtent pas du tout, des types de scénarios qui ne se prêtent pas du tout à la campagne. Je pense à des. On voit ça notamment dans les jeux indés, type Breaking the Ice, par exemple, jouer des rendez-vous amoureux. Bon, on va pas jouer ça en campagne, mais c'est super pour faire ça en one-shot. On avait testé avec Chloé notamment Shades, je crois que c'était, où on joue en fait des fantômes qui ont vécu un drame, ils s'en souviennent pas, et au fur et à mesure, ils s'en souviennent. Et bon, peut-être que là, pourrait développer
Shades.
Ça.
C'est l'une des sources d'inspiration des petites choses oubliées.
Ouais, on pourrait peut-être développer ça sur une campagne, mais là, pour le coup.
Chloé.
Oui, non, enfin, c'est ce que je voulais dire juste avant que tu interviennes. Effectivement, je pense qu'il y a des scénarios, des, enfin, voilà, je pense que par exemple Sens, même si je l'ai très peu testé, je pense qu'il se prête beaucoup mieux à une campagne et qu'en one shot, t'as pas le temps d'explorer un univers.
Ah oui, totalement. Totalement.
Voilà, à l'inverse, effectivement, d'autres jeux, et Perdu sous la pluie, je pense, en un one shot, tu peux avoir fait le tour d'un univers beaucoup plus facilement. Alors,
j'avais envie d'aborder l'aspect justement créateur de jeu et l'avantage du one shot pour les créateurs de jeux et tout ça, mais ça sera peut-être l'objet d'un prochain chapitre dans ce podcast. Mmh. Juste rapidement, j'aurais passé la parole à Emmanuel. Qui la demande.
Oui, par rapport à ce que disait Yosei, ça va même un petit peu plus loin, le fait qu'on puisse se lâcher, et ça permet de pousser un peu jusqu'aux limites le côté bah, qu'est-ce que l'univers me permet, pour le coup, avec Agon, c'est en tant qu'inspiré, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. C'est une façon de mieux comprendre l'univers aussi, sans avoir besoin de poser les questions au MJ. Donc voilà, ça permet de se définir son univers et de savoir à quel point ça va clasher et à quel point bah, les personnages, on n'est plus dans la couleur du jeu, quoi.
Natacha.
Du coup, c'est le moment inconvénient.
Ah. Attends, je voudrais juste finir un dernier
sur les avantages.
Un dernier, avant de passer à l'inconvénient,
juste sur les avantages. Moi, je voulais Chloé. Rebondir juste sur ce qu'avait dit. Shadow,
d'accord, Shadow.
C'était effectivement, ça permet aussi d'aborder un univers qui est d'habitude en campagne selon un angle différent qui n'est peut-être pas prévu par les auteurs d'origine ou bon, en tout cas voilà, et ça permet peut-être juste
c'est vrai.
D'apporter voilà, à voir le monde sous le point de vue du méchant, sous le point de vue du quadrilla, ce genre de choses.
Tout à fait.
De Cthulhu.
Un point de vue intéressant aussi, et c'est celui de Chloé qu'elle défendait en préparation du podcast, c'était sur le fait que ce soit plus facile de rentrer dans l'univers du jeu de rôle et dans l'univers d'un jeu de rôle par un one shot où on se dit bon bah si ça me plaît pas de toute façon ce sera pas.
Oui c'est ça, si ça me plaît pas c'est sans conséquence finalement, je suis pas obligée de continuer et de. Vous moquez de moi.
Il y a pas un côté très intimidant dans la campagne aussi. Enfin,
si peut-être
de l'extérieur.
Aussi, ouais.
Toi qui es un peu plus
ces
extérieur.
Arbres, tous ces champs,
qui
ces animaux.
Plus effectivement.
Nous pauvres citadins.
Oui, effectivement, les poules qui chantent, enfin les coqs, pardon, qui chantent très tôt le matin, ça fait peur. C'est très intimidant. Non, mais effectivement, la campagne, c'est aussi un investissement sur du long terme.
Il me semble que c'est un petit peu ce qui fait peur justement aux gens qui voient le jeu de rôle de l'extérieur, en fait. C'est pour ça que je te pose la question à toi, parce que autour de cette table, je pense que tu es celle qui a le moins pratiqué de jeu de rôle, de façon intensive. Et je voulais te poser cette question aussi.
Je pense que effectivement, il y a un côté intimidant. Après, moi, j'avais pas de préjugés avant sur le jeu de rôle. Je n'imaginais pas les concepts de campagne ou de one shot non plus. Donc voilà. Mais effectivement, ce que je te disais, le one shot. Bah, t'en fais un, si ça te plaît, c'est bien, c'est cool, tu peux en refaire avec d'autres scénars. La campagne, voilà, c'est un investissement sur du long terme, et si ça te plaît pas, bah, c'est compliqué, quoi.
Alors, ce raisonnement va très très loin, hein, puisqu'on a même des jeux, par exemple, comme Sombre Zéro, qui proposent de jouer des parties de jeux de rôle en un quart d'heure.
C'est parfait.
C'est-à-dire que, du coup, on est dans...
Ce n'est pas un jeu de rôle, hein, Sombre Zéro.
Pourquoi tu dis ça ?
Sombre Zéro, honnêtement, l'expérience que j'en ai vécue, c'est on attend que quelqu'un décrive tout ce qui se passe pendant un quart d'heure. Mmh. Moi, on nous demande est-ce que tu attaques, est-ce que tu t'enfuis, est-ce que tu te défends. Et
tu
le seul mot que j'ai à dire, c'est j'attaque, je défends.
Alors, c'est pas en dehors de la qualité de Sombre sur laquelle on a pu faire un podcast tout entier,
je parle bien de Sombre Zéro.
Oui, mais
je n'ai
pas
testé Sombre.
Moi, je les ai testés tous. Je n'ai pas testé les dernières versions, bien sûr, parce que l'auteur ne me les vend plus.
Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Johan Scipion défend l'idée que le one shot est intéressant pour faire découvrir, et c'est tout ce que je voulais dire, que c'est intéressant pour faire découvrir le jeu de rôle aux non-initiés. Alors après, savoir si c'est du jeu de rôle ou pas qu'il fait découvrir, ça c'est une autre question. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que ça recoupe des débats qu'on a eus sur le fameux ceci n'est pas du jeu de rôle et toutes les réflexions qu'on a eues là-dessus. On ne peut pas dire que telle chose n'est pas du jeu de rôle. Si un auteur dit ceci est du jeu de rôle, c'en est. Après, est-ce que voilà, on a raison. Voilà, et puis est-ce qu'on a raison de faire découvrir le jeu de rôle par des one shot d'un quart d'heure ? Ça, c'est un autre débat. Bah, tout ce que je voulais signaler, c'est juste que lui pensait en tant qu'auteur que c'était intéressant de faire découvrir des gens très très rapidement le jeu de rôle sur des salons où il y a énormément de passages, etc. En un quart d'heure. Et je trouvais cette démarche très très intéressante.
Oui, c'est intéressant parce que c'est là où tu peux dire, bah, j'ai envie de tester, mais je suis pas sûr que ça va me plaire. Bah, ça me prend pas longtemps pour savoir si ça va me plaire ou pas. Ça me prend un quart d'heure. T'as vite tranché sur la question. Après, le problème.
Adrien a tranché d'ailleurs, on voit.
Voilà, après, le problème, c'est que si tu.
D'un coup d'un soir,
si
tu... un petit coup rapide de 10 minutes sur la photocopieuse.
Oui, mais voilà, c'est ça.
Ouais, pardon. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, un quart d'heure est suffisant pour vraiment voir si ça va te plaire ou pas, quoi ?
Bah, déjà, d'une, est-ce qu'un quart d'heure ça suffit ? Et aussi, est-ce que le jeu en lui-même te plaît ? Parce qu'un quart d'heure ça peut suffire si le jeu te convient. Si le jeu ne te convient pas, c'est. Enfin voilà, c'est pas juste la question du temps, c'est aussi la question du jeu par lequel
tu
vas commencer, quoi.
Du jeu, bien sûr.
La qualité, mais aussi un univers, une histoire, un scénario.
Moi, typiquement, tu me fais jouer un quart d'heure avec des zombies, je vais me faire suer pendant un quart d'heure. Hein.
Ouais, mais pareil.
Emmanuel.
Et donc, je vais dire, je déteste le jeu de rôle, alors que c'est pas forcément le cas.
Emmanuel.
C'est aussi pour ça que nous, aux Utopias, on essaie pas mal d'avoir toujours des tables ouvertes. Il n'y a pas que Thomas Munier qui en propose. Hein. L'idée, c'est de. J'ai peur que ce soit.
Parce que c'était ce qui était sous-entendu dans le podcast à un moment donné, mais c'est pas le cas, il y a plein de tables ouvertes.
Non, on disait que Thomas Munier avait une table ouverte. D'accord. En fait, l'avantage de la table ouverte sur le one-shot de 15 minutes, c'est juste... Je sais pas ce qui est en train de se passer.
Les podcasteurs commencent à se faire des bisous autour de la table.
On revient dans un quart d'heure.
Bientôt, on va faire une convention ici. Hein. Bientôt,
on va faire une convention. On a commencé sur un débat avec beaucoup d'allusions sexuelles. Donc nous, on a continué dans notre coin.
Vous aurez la vidéo YouTube, hein, ne vous inquiétez pas.
Ah oui, entre Yosei et Chloé, c'est chaud en tout cas. Alors Emmanuel,
two girls one microphone.
Waouh. L'avantage de la table ouverte, c'est que, en fait, c'est presque un piège. On dit à la personne, vous venez, vous installez pour 10 minutes, un quart d'heure et vous repartez si ça vous plaît pas. On sait pertinemment que les gens, il y en a très très peu qui restent un quart d'heure, sauf que vraiment quand ils sont appelés ailleurs. Mais
ils restent plus longtemps,
ils finissent par rester une heure, deux heures ou jusqu'à la fin du scénario. Donc bon, c'est assez biais parce que évidemment, quand on prévoit un jeu comme ça, on a des règles qui sont allégées, on a un scénario qui permet l'entrée et la sortie de personnages très très facilement, mais voilà, c'est aussi une façon de dire on a quelque chose de court, mais on permet de rester plus pour éprouver le plus possible ce que c'est qu'un jeu de rôle, quoi.
Yosei. D'accord, ok. Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est par rapport à Sombre Zéro et au fait de découvrir le jeu de rôle d'un quart d'heure, on touche là justement aux inconvénients du one shot. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que justement on n'a pas découvert le jeu de rôle quand on a joué qu'en un quart d'heure ? Et c'est ce que souvent les gens craignent avec justement ces jeux qui se jouent très très rapidement. Pas uniquement Sombre Zéro, hein, parce qu'il y a plein de jeux de rôle ou de par exemple ce que les gens appellent des story games qui jouent comme ça en très très peu de
Je
temps.
Je croyais qu'on avait dit qu'on arrêtait de parler du le jeu de rôle. Finalement, ils découvrent. Oui, est-ce qu'ils découvrent un jeu de rôle ?
Ils découvrent un jeu de rôle.
Voilà, mais les gens ont peur. De toute façon, même en campagne, pas le jeu de rôle.
Laisse-moi finir. Les gens ont peur. À travers ces jeux-là, et je pense que ce qui pose problème avec les story games comme avec Sombre Zéro, c'est que les gens ont peur que ça dégoûte des gens du jeu de rôle. C'est-à-dire que les gens se disent, c'est bon, j'ai découvert le jeu de rôle, donc quand on va leur proposer un jeu de rôle, ils vont faire ouais, c'est-à-dire que la dernière fois, ça a duré un quart d'heure, c'était pourri, donc non, j'ai pas envie d'y jouer. Et c'est ce que craignent les gens. Adrien, je sentais un petit peu ça à travers tes remarques. Je pense qu'il faut le dire aussi. Et donc, on arrive gentiment aux inconvénients. Du one shot. Yosei, t'avais envie de rebondir d'abord.
Non, juste un petit truc, c'est que je pense que si on veut servir du one shot pour découvrir le jeu de rôle, ou les jeux de rôle, enfin voilà, c'est pas un one shot qu'il faut faire, mais c'est beaucoup de one shot de différents jeux de rôle, systèmes, pour justement trouver celui avec lequel on a des affinités.
Je suis d'accord, on n'a pas découvert le cinéma quand on a regardé un épisode des Simpsons. Ouais. Et c'est un petit peu ce dont on est en train de parler. Non, mais c'est ça en fait. Et donc du coup, évidemment.
Ou les 10 premières minutes d'un film.
Ou les 10 premières minutes d'un film, évidemment, évidemment. Mais voilà, c'était juste pour faire une transition vers Natacha, c'est complètement raté, vous avez tous envie de rebondir. Emmanuel
Peut-être que... j'ai un trou. Non, peut-être bon. Que justement, si, ça y est, ça me revient.
Ça y est.
Peut-être que justement, c'est ça qui est intéressant aussi. On a des joueurs qui vont vouloir découvrir, mais qui vont vouloir découvrir avec déjà des attentes et des affinités pour tel ou tel type. Envie de jeter des brouettes de dés ou pas de jeter des dés. Et donc, l'avantage du one-shot, c'est que ça permet de créer quelque chose sur le vif qui s'adaptera à ce que veulent les gens. Et comme ça, on est sûr de ne pas les lancer sur une partie de 8 heures s'ils ont envie de jouer une heure, et inversement.
D'accord. Tout ça pour dire que le one-shot porte aussi des problématiques qui sont de l'ordre de l'exposition et de ce qu'on attend du jeu de rôle. Et évidemment, du coup, à ce titre-là, le one-shot est également porteur de certains inconvénients dont va nous parler tout de suite avec calme et délicatesse Natacha.
J'en ai pas plusieurs en tête. C'est simplement que le problème de faire des one-shots qui soient des entrées vers des univers fournis, vers des campagnes, je pense à Vampire, je pense à Agone, je pense à Hurlement, c'est que ça fait un teaser, c'est bien, ça allèche sur ce qu'on va pouvoir découvrir éventuellement après, mais le problème c'est aussi qu'en tant que joueur, on se retrouve des fois avec des jeux pour lesquels on va trouver aucun MJ ensuite. Et on aura eu un super avant-goût et on va se retrouver à se dire putain, est-ce que j'achète le bouquin moi pour le mener moi, mais en même temps c'est pas la même expérience de jeu. Voilà, enfin.
D'accord. Donc en fait, là tu soulignes le côté frustrant du one shot.
Oui, exactement.
On voit bien que tu es une podcastrice de la cellule, que tu as eu l'occasion de tester plein de jeux qui t'ont bien motivé et que tu as jamais eu l'occasion de continuer faute de temps ou faute de meneur. Ça se sent bien. Alors moi, je pensais pas du tout que t'allais nous parler de ça, Natacha. Je pensais que t'allais nous parler d'un problème qui est de l'ordre de l'interprétation du personnage. Je parlais avec Anne, justement la femme du Grumpf, hier, qui me disait que elle a besoin d'avoir au moins deux ou trois scénars avant de prendre véritablement en main l'interprétation de son personnage.
Ça va dépendre de la couleur du personnage en question. Il y a des fois où Natacha. J'ai plus de facilité à rentrer dedans dès le départ parce qu'il y a quelque chose de très marqué. C'est une vieille dame. Qu'est-ce que j'ai. J'ai pas l'exemple.
Un exemple un peu caricatural.
C'est ça. Mais, et il y a des fois où, effectivement, vu que c'est plus un personnage en nuance, j'ai besoin de plus de temps.
Et tu vois là où je veux en venir ?
Ouais.
C'est-à-dire que le one-shot, indirectement, favorise aussi un peu la caricature. Et oui. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je me souviens dans le podcast, justement, que vous aviez enregistré sur Agone, qu'il y avait ce problème du Minotaure, qui semblait justement être un personnage extrêmement creux, avec le côté très bourrin et tout, et qu'il avait fallu presque le mettre en problématique, le mettre en profondeur, le mettre en relief, pour qu'il finalement soit digne d'intérêt. Et comment on a fait ? Eh ben, on a imaginé le personnage sur une campagne. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire que le one-shot, c'est aussi peut-être trop, à mon avis, le lieu de la caricature. Et du coup, on peut se poser aussi la question de l'image que ça peut donner du jeu de rôle.
Je suis pas entièrement d'accord avec ça.
Alors vas-y.
Pour moi, ça dépend énormément de la façon dont le meneur ou le jeu, en tout cas, a prévu la partie. C'est-à-dire que si on joue dans un jeu traditionnel avec un scénario à faire, genre une enquête, ou enfin, s'il y a vraiment un truc extérieur au personnage, oui, effectivement, là, on n'aura pas le temps de... Par contre, si le scénario est entièrement centré sur l'exploration du personnage et de ses relations, on peut au contraire aller vraiment vers quelque chose de...
Tu crois ?
Ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des one-shots où des personnages étaient extrêmement travaillés, parfois plus que des campagnes entières où, finalement, la campagne était constituée d'un enchaînement, en fait, d'enquêtes, un enchaînement de combats, un enchaînement de trucs comme ça.
Il me semble que c'est un peu ce que voulait dire Adrien tout à l'heure quand il disait qu'il donnait des personnages très riches à jouer.
Ouais, c'est
Adrien.
Ça. Enfin, je voulais dire deux choses. Ça se rapproche de ce que je disais tout à l'heure. L'exemple que tu donnes de one-shot qui tourne autour des personnages, enfin, en fait, même un jeu qui tourne autour des personnages type Blistage, il faut le temps d'une partie avant qu'on ait tout le
Blistage, on crée 14 personnages, enfin 11 personnages avec, ouais. Et puis il y a des attaques de martiens, enfin d'aliens, oui, bref. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Moi, je pensais vraiment, justement, je reprends l'exemple que j'avais cité, Shades ou Breaking the Ice. C'est vraiment des jeux qui sont, on a 3 personnages et c'est tout, quoi. Et on explore leurs relations, leur passé, leur rendez-vous.
Ça a l'air vraiment bien, Shades. Faudrait peut-être se faire un one-shot dessus, parce que ça a l'air vraiment très très bien.
Il y a du bon et du moins bon pour moi. Mais...
D'accord, ok. Tu l'as, le jeu ? Tu pourrais nous le one-shot ?
Je crois qu'il se trouve sur Internet, il me semble. D'accord. Je sais plus. C'était Steve J qui nous l'avait présenté.
Très bien. Okay. Chloé, puis Adrien.
Bah, moi, j'ai l'impression justement qu'un one-shot ne permet pas d'explorer à fond un personnage avec toutes ses facettes, ses particularités, une identité qui lui est propre, etc. Donc, Après, je,
voilà,
je,
c'est
je
peut-être suis pas peut-être le lieu. Vous voyez, je suis pas en train de dire que c'est un défaut inhérent au one shot. Je, ouais. je dis que ce n'est pas le lieu pour la chose.
Je pense que c'est ça effectivement, et je pense que une campagne se prête mieux à l'exploration à fond d'un personnage.
C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs Sens ne peut se jouer qu'en campagne. Adrien,
Moi l'impression que j'ai aussi, c'est que en fait, ce que tu disais, Vivien, sur les scénars d'enquête de jeux classiques, etc. En fait, au final, quand on joue à ce genre de jeu en one shot. Enfin, on joue pas vraiment un personnage. On se joue nous dans la fiction avec les compétences.
Oui, on est limite une fonction c'est ça, en fait, dans un scénario.
C'est,
quoi.
C'est pour ça que moi, ce genre de jeu en convention, c'est souvent. Enfin, je l'aborde souvent sur un, comme si c'était un jeu ludiste. C'est-à-dire, mon objectif, c'est de résoudre l'enquête. Mon objectif, c'est de. Et donc, c'est vrai que l'interprétation du personnage n'est pas centrale. Elle va servir de temps en temps pour. Il y a une situation où j'hésite entre deux choses. Ben, est-ce que si sur ma feuille de perso il y a marqué que je suis colérique, ben je vais peut-être jouer ça plutôt
ouais.
que.
Ouais, parce mais que être... moi j'avoue que c'est vraiment typiquement le scénario tel que tu le décris, c'est vraiment le truc qui me fait parfois fuir ouais. le one shot.
Mais je comprends. Voilà.
Emmanuel. Pourtant j'en ai joué un paquet, disait Chloé
voilà,
hors des micros.
Hors du micro. Manu. Ouais, je pense qu'il faut aussi se souvenir quand on débarque sur du one shot que la création du personnage, elle peut être dans toute une gamme, c'est-à-dire de, on fait la création de personnage tous ensemble, jusqu'à, je vous donne un prêt-tiré complètement rempli. Et moi, j'aime bien m'arrêter dans la création de personnage. Par exemple, je donne un exemple tout con sur vampire. Vous remplissez toutes les compétences, vous dites voilà, c'est compétences, c'est ça, ça, ça. Par contre, vous laissez tout ce qui est caractère, attitude vide.
En gros, tu fais tout ce qui est rébarbatif et chiant avec le système et tu laisses tous les trucs intéressants
alors,
qui concernent l'historique.
C'est surtout que, indépendamment de ça, tu vas laisser au joueur qui
parce
est là pour jouer juste quelques heures.
Le côté calcul, tout ça, tu viens.
Ouais, non.
C'est pas ça.
Okay. Laisse-moi finir ma phrase.
Je t'en prie, t'en prie.
Non, tu lui laisses en fait le choix de ce qu'il a envie de jouer comme caractère. Ce soir-là, il a envie d'exploser. Ce soir-là, il a envie d'être plutôt taciturne.
Alors là, je t'arrête tout de suite. Si tu lui mets des compétences où il a zéro en manipulation, zéro en charisme, pour autant, il pourra pas jouer le personnage ouais. beau gosse.
Évidemment, non, mais le choix va se positionner par. Mais bon, tu peux avoir quelqu'un avec beaucoup de charisme qui soit quelqu'un de très posé, très calme, ou tu peux avoir quelqu'un de complètement flamboyant.
D'accord, tu vas lui laisser des libertés, mais ton ensemble de compétences quand même va le
ouais.
déterminer
moi,
à fond.
Dans ce cas-là, ce que
ouais,
je
mais
fais,
après, il y a toujours 4 ou 5
persos
différents.
Avant de les distribuer, je demande aux joueurs autour de la table, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils aiment bien jouer, c'est quoi leur perso refuge, est-ce que vous êtes du genre le petit rotor manipulateur, le gros bourrin, le mec qui va protéger les autres, le mec qui veut se payer la classe, et selon, bah, j'ai distribué les persos.
Shadow Punata.
Pour aller dans le sens d'Emmanuel, c'est qu'en fait, elle propose des personnages qui n'ont que des stats. Donc, les joueurs choisissent
des stats en fait.
De ça,
stats,
et du ouais. coup, après, ils greffent le caractère.
Bah, on n'est pas loin de ce que je disais tout à l'heure à propos de. On se passe juste les calculs et les statistiques et puis on.
J'ai envie de jouer un gentil maître des explosifs. Enfin, il y a un moment où ça a posé problème dans la partie, quoi. Enfin, je sais pas.
Ça a posé problème à Natacha dans une partie.
Je voulais juste dire qu'on était vraiment dans les stats le vampire.
Oh, bravo, oh, bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo.
Natacha. Sous un tonnerre d'applaudissements, Natacha, tu prends la parole.
Oula. Du coup, oui, ça m'a fait penser à un autre inconvénient du one-shot, c'est que souvent, c'est one-shot parce qu'on a moins de temps, parce qu'on doit jouer seulement 2-3 heures, parce que voilà. Et donc, bah, justement, ça va pousser à imposer des prêts-tirés, ce que je déteste, moi, parce que j'adore la phase de création de personnages. Mais après, c'est vraiment un avis personnel.
Mais tout à fait, mais je ne te demande que ça, Natacha. De toute façon, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux donner l'avis général de tout le monde ? C'est impossible. Ça tombe bien, tu es là pour donner ton avis.
On peut très bien faire autrement. Enfin, nous, je sais que quand on fait nos one-shots, on crée nos persos aussi.
Oui, oui.
On prend le temps de le faire parce
oui,
qu'en
mais
fait,
c'est... oui, mais tu prends le temps, mais ouais. faut l'avoir. Enfin,
tout à fait. Mais on peut aborder le one shot de cette façon-là. On peut très bien créer nos personnages déjà. Ce,
okay.
ce,
oui, mais ce n'est pas inhérent au one shot.
Pas
voilà.
inhérent one shot. J'en suis bien consciente, mais très souvent les prêts. Enfin, de toute façon, les prêts tirés, tu les imposes pas pour une campagne.
Yosei,
donc c'est forcément.
Yosei puis Manu.
L'avantage aussi quand même des prêts tirés, par exemple, ça va rejoindre un peu ce que tu disais sur. On est peut-être sur des caractères plus. On va peut-être le jouer de manière plus caricaturale, mais ça permet aussi parfois de jouer des personnages qu'on ne joue pas du tout. Parce que moi, quand je m'engage sur une campagne, j'aime jouer des personnages dans lesquels je vais me sentir à l'aise. Donc c'est vrai que parfois, je te retombe un peu sur les mêmes
critères
de personnages.
Voilà. J'allais te citer justement, tu disais, on va pas hésiter à faire, en one shot, on n'hésite pas à faire certaines choses.
Voilà.
Et du coup, j'allais rebondir là-dessus pour dire, tu vois, ça prouve ce qu'on avance, à savoir qu'on va pas hésiter non plus à aller dans l'excessif, vif, etc. Mais en même temps, là, tu es en train de retourner l'argument avant même que je ne te l'ai soumis, en disant que du coup, ça va permettre aussi de jouer des choses différentes et qu'on ne pourrait pas tenir sur le long terme. Et là, tu marques un point, à mon avis, capital.
Parce qu'il y a des... Voilà. Non, pour finir, vas-y. C'était juste qu'il y a des personnages qu'on n'a pas envie de se traîner 6 mois, mais les jouer pendant 6 heures, on s'éclate, quoi.
Absolument. Emmanuel.
J'ai vu une fois aussi en convention un MJ qui m'a refilé une fiche de perso qui n'en était pas vraiment une, où il y avait juste écrit les compétences nécessaires pour la partie, et puis un espèce de background et une description du personnage très, très littéraire, quoi.
D'accord.
Et alors ça, je dois dire que ça pourrait être une bonne idée, et par contre, j'ai eu l'impression de passer totalement à côté du jeu, de pas comprendre comment était construit le jeu. Et je sais pas quel ressenti vous auriez par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait.
C'était un jeu où normalement il y a une fiche de personnage.
Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il avait décidé, pour simplifier les choses, de prendre juste les éléments importants pour son scénar et pour comprendre le personnage.
Et donc du coup, il n'y avait pas la fiche de perso standard, t'avais juste 3
compétences. Et j'ai pas eu accès à la fiche de perso.
Donc du coup, vous n'aviez pas le système global du jeu. Donc tu m'étonnes que t'aies pas eu l'impression de jouer au jeu complet.
ouais, après, ouais, au niveau du système, je sais pas ce que ça a donné, mais oui. C'est vrai que...
Adrien, donc, tu voulais prendre la parole pour dire autre chose à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, dans ce cas-là, on peut passer à la suite de ce podcast, suite qui, malheureusement, certains d'entre vous qui n'ont pas créé de jeu ne pourront pas trop donner leur avis, mais j'aurais voulu avoir votre avis aussi de créateur de one-shot. Alors, ceci dit, ceux qui ont maîtrisé et qui ont inventé des one-shot peuvent en parler, mais en tant que créateur de jeu, par exemple, Adrien Cahuzac, au hasard, vous avez sorti un jeu qui s'appelle... L'Agence. Et clairement, L'Agence, c'est un jeu pour faire un one-shot.
Oui, c'est un jeu qui fait principalement du one-shot.
Pourquoi avoir choisi ce format? Pourquoi t'es dit, la partie que je veux engendrer, c'est une partie one-shot? Excuse-moi, je te prends peut-être
deux
cours.
Non. À l'origine, L'Agence n'était pas prévue pour faire, pour que ce soit surtout du one-shot.
Attention à ton micro, Adrien.
À l'origine, une partie de L'Agence, c'était 3-4 scénarios.
D'accord.
3-4 parties, grosso modo, et qui permettaient de. C'était vraiment l'esthétique Mission Impossible. Hein, donc, à chaque fois, il y a une première mission qui va rater, une deuxième mission qui va rater, une troisième mission qui va rater, puis la dernière qu'on réussit. Donc, c'était un peu l'inspiration. Mais les mécanismes qu'on avait en tête avec Natacha n'allaient pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au final, on réussissait la mission ou on la ratait, et il y avait. C'était plus difficile d'avoir des liens entre différentes étapes.
D'accord.
Donc j'ai préféré voir une mission comme une entité en soi. Et du coup, éventuellement, deux parties seraient deux missions qui suivent, mais sans lien indispensable entre les deux. Donc à part peut-être des personnages qui reviennent, etc. Mais,
Ok, ouais. Il y a des liens quand même, des contacts qui reviennent, qui peuvent être mis en danger.
C'est ça, des choses comme ça. Ouais.
Voilà. Le deuxième autour de cette table qui a fait ce choix, c'est Vivien. Vivien, pourquoi avoir... Parce qu'il me semble quand même que Perdu sous la pluie, à la fin, il y en a un qui gagne, et puis à la suite de l'histoire, on ne la fait pas.
Ouais, on ne peut pas faire plus one-shot que ça. Il n'y a aucune règle de campagne, c'est clairement assumé comme tel. C'est compliqué, parce que c'est un ensemble de facteurs. Alors, je pense que le premier facteur, c'était... le premier facteur, c'est effectivement quand on s'essaye à l'écriture d'un jeu véritablement et qu'on se dit cette fois je vais le mener jusqu'au bout. Bon, c'était mon deuxième jeu, ça marche pas.
Tu peux parler de pourquoi Les Errants d'Okiyo est plutôt un jeu à one shot alors.
Ouais, alors.
moi j'ai une réponse à te donner.
Alors vas-y.
Moi j'ai l'impression que vous deux en fait. Vous deux, pourquoi vous avez fait ça? Tout simplement, est-ce que le canon esthétique dont vous inspiriez pour vos jeux, c'est le cinéma? Le film, toi à travers Les Errants d'Okiyo, toi à travers L'Agence Touriste ou l'épisode d'une série, et Perdu sous la pluie, là c'est plutôt le format limbo, jeu vidéo indépendant, assez court, avec.
C'est vrai.
Il me semble que ça joue quand même.
Non, en fait, pas pour Perdu sous la pluie. Les Errants d'Okiyo, d'ailleurs, c'est plutôt un jeu, pas à campagne, mais à suite de one shot.
Très bien.
Mais effectivement, il n'est pas prévu pour faire un seul scénario, par contre, ça c'est clairement l'idée. Par contre, pour Perdu sous la pluie, c'est plus une inspiration, je pense, des jeux de la Forge. Auxquels je jouais énormément à cette époque-là, qui sont tous des one-shot.
D'accord.
Et j'avais envie de cette espèce de truc où on fait un type de jeu différent de d'habitude. On le fait ça en une soirée. En plus, il y avait une idée un petit peu d'introduction, de présentation au jeu de rôle, peut-être, pour les gens qui aiment moins ça, essayer de faire quelque chose de... Oui, bah, j'entends Chloé qui rigole à côté.
Les thématiques,
que tu l'as écrit pour me faire découvrir le jeu de rôle.
Sans doute peut-être un petit peu influencé.
C'est très important.
Aussi.
Hein. Moi, j'ai fait le Val aussi pour faire découvrir Magic à ma grand-mère. Enfin, je veux dire, j'exagère à peine quand je dis
ça. Elle a gagné un tournoi depuis ?
Non, non, elle a pas gagné de tournoi. Elle m'a poutré au Val, mais elle a pas gagné de tournoi.
Ah, quand même.
Maintenant, si je voulais être complètement honnête et quitte un petit peu à dénigrer à une partie de ce que je fais, c'est aussi de dire que c'est peut-être parfois plus facile de faire un one shot. Ouais,
moi, j'allais le dire.
Adrien.
J'allais dire qu'en fait, concevoir un jeu qui se joue en campagne, ça implique des tests beaucoup plus longs, vraiment beaucoup plus longs.
Des playtests, tu veux dire.
Ouais, des playtests. Et des mécaniques très différentes.
Ouais, une écriture aussi.
C'est beaucoup plus de boulot. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins travaillé dessus sur l'agence, c'est que la partie durait très bien et que pour en faire un jeu qui se jouera en campagne, il aurait fallu une couche de règles supplémentaires sacrément épaisse.
Pardon, excuse-moi, je t'interromps, Adrien, je suis désolé.
Oui, vas-y, j'en prie.
J'aime pas trop vous entendre vous flageller sur ce point parce qu'on dirait que vous prenez ça pour un défaut.
Non.
Quand on fait partie d'un ensemble de théoriciens qui disent que ce qui est important, c'est pas que le jeu puisse tout faire, mais qu'il fasse une chose et qu'il le fasse bien, ça me semble pas être forcément un défaut faire un jeu en one shot qui soit court, etc.
C'est un défaut de l'agence.
Non, mais j'entends Vivien qui dit dénigrer mon travail. Enfin, non, pour moi, c'est juste que vous avez voulu faire quelque chose de très spécialisé et c'est tout à votre honneur. Enfin, je veux dire.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est pas une question de renier ce qui a. Tu voulais dire un truc. C'est pas une question de renier ce qui a été fait. C'est Vivien. Plus une question de. Pour moi, il y a. J'ai ressenti un manque, malgré tout, avec Perdu sous la pluie, un manque que j'essaye maintenant de combler avec le spin-off Libreté. Et voilà, donc c'est clairement, c'est ça, c'est pas dénigré dans le sens de... C'est-à-dire exploiter le même univers, mais cette fois en voulant faire un jeu qui se joue sur plusieurs scénarios.
Intéressant, t'as quand même une conception spin-off, tu parles d'une série, vous avez tous les deux, je pense, des univers qui s'inspirent d'univers visuels qui sont propres au film, etc. Et ça, c'est bien d'avoir des inspirations. Par exemple, si on prend par exemple...
Je suis pas convaincu.
Mais bien sûr que
c'est juste qu'on a des termes qui sont employés pour un scénario.
Rappelle-moi les deux sources d'inspiration de Perdu sous la pluie. Limbo et Rain. Excuse-moi, on est dans des petits jeux indépendants qui se jouent en 4 heures. Enfin, on est exactement dans Perdu sous la pluie. Enfin, et c'est pas une honte, Vivien. Enfin, je sais pas pourquoi tu cherches à.
C'est pas parce que j'ai honte. C'est juste parce que je considère que effectivement, au niveau du, mais tout visuel est inspiré de choses visuelles. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que les mécaniques en elles-mêmes ne le sont pas.
Oui, d'accord.
C'est voilà. J'ai pas. À la limite, les Erandukio, pour le coup, je suis obligé effectivement de revendiquer des influences cinématographiques assez importantes là. Je suis d'accord, y compris dans le système.
Moi, il y a des raisons. J'ai envie d'invoquer aussi des raisons économiques. Alors moi, j'ai jamais créé un jeu pour des raisons économiques. Ça, c'est évident. Vous le savez. Mais par contre, j'aime bien voir des petits jeux arriver comme ça sur le commerce. Certains les appellent pour les dénigrer justement des jeux apéro. Moi, j'appelle ça des jeux à one shot, comme l'agence et Perdu sa pluie. Parce que, en fait, on a observé que les rôlistes souvent achetaient une base et qu'avec, ils pouvaient jouer pendant des années et des années. Et donc, au final, ils mettaient 40 euros dans le monde du jeu de rôle et puis qu'avec ça, eh ben, on ne les revoyait plus jamais. L'avantage aussi des petits jeux, je trouve, c'est que ça implique aussi à payer la valeur du travail du créateur. C'est-à-dire que, bah oui, tu payes 10 euros pour faire ta partie de Perdu sous la pluie, tu paierais 10 euros pour aller au cinéma, c'est à peu près pareil, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça incite les rôlistes à acheter aussi quelque part des systèmes dédiés, des univers, etc. Et donc, d'un point de vue économique, je trouve ça pour le milieu du jeu de rôle également intéressant. Alors, bon, on va encore me dire, je sais que Sébastien Cellerin va encore me dire que on a l'impression que je suis un libéral quand je dis ça ou que je passe pour un odieux mec de droite. Mais en tout cas, parce que justement, ce qui fait l'intérêt du jeu de rôle aussi, c'est sa gratuité. Mais je trouve que quand même, payer 10 euros pour faire un nombre incalculable de parties de Perdu sous la pluie, ça reste quand même pas cher. Faut quand même pas non plus nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais je trouve ça quand même aussi intéressant d'un point de vue économique, le one shot, pour le milieu du jeu de rôle, tout simplement. Voilà, et je voulais juste passer par là pour dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, à part, alors vous avez dit, vous avez cité d'un point de vue créatif, c'est quand même plus court, on sent bien, il y a moins de travail, moins de playtests à faire. Ce sont aussi des jeux plus petits en termes d'ampleur, 70 pages pour toi, je vous confonds tous les deux, c'est horrible. Vivien, c'est combien de pages ?
Je ne sais plus du tout combien c'est.
Ouais, une trentaine de pages, quelque chose comme ça.
Même pas, peut-être une 15-20 max.
Oh non, non, un peu non plus que ça quand même. Ça, ouais, mais peut-être 50-60, ouais, grand maximum.
Perdu sous la pluie.
Ouais.
Il n'y a pas de 60 pages.
Il y a Shadow qui
Shadow l'arbitre de la vérité.
Tu l'as fait au format livre pour enfants. Et il n'y a pas 60 pages, clairement. S'il y en a 20, c'est déjà beaucoup. Là, mais...
Il n'a pas perdu de temps.
Il n'y a pas 60 pages.
Ah, quand même, il paraît épais. Là. Ah bah si, oui, alors 60 même, pages.
Attends, bon, okay,
non, non, mais c'est que 60 pages, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a l'impression.
Donc voilà, ça joue aussi.
Il faut que ce soit... Pour le coup, la logique, c'était quand même que ce soit rapide à lire et rapide à prendre en main.
Je voudrais quand même dire vraiment et insister sur cet argument que... Une des raisons pour laquelle vous avez fait ça, c'est aussi parce que vous venez d'une théorie qui dit « Il vaut mieux qu'un jeu fasse bien une seule chose plutôt qu'il fasse mal un peu tout et n'importe quoi. » Enfin, moi je suis sûr que ça joue.
Oui, ouais, ça joue beaucoup, bien sûr. Ouais. Et puis c'est une façon aussi de s'attaquer. Moi, je sais que les Erandukiyo, par exemple, c'était un système qui avait déjà été testé par d'autres avant. Hein. Il était très inspiré de, par exemple, Hero Wars, que je cite souvent. Et du coup, il y a ça derrière pour... comme assise, quoi. Je me dis, je peux lancer le jeu en campagne. J'ai déjà joué à des jeux un peu similaires en campagne, je sais que ça marche. L'univers, en plus, oh, c'est cool, c'est le Japon un peu voilà, d'exploitation, bon, cinéma, comme on a dit, série B, tout ça. Je sais que je peux faire plein de scénars, il n'y a pas de souci. Perdu sous la pluie, c'est des mécaniques que je ne maîtrisais pas à l'époque. Quand j'ai lancé le test, je me suis dit, ça se trouve, je vais manger une méga gamelle, ils vont me regarder avec des yeux ronds en disant, mais... c'est complètement nul. Voilà, donc pour le coup, c'est aussi plus expérimental. Donc le one shot, pour ça, c'est parfait. Quoi.
Après, voilà, il y a certains types d'expériences qui ne peuvent se transmettre que par le one shot. Il y a Steve G, notamment, qui a inventé un jeu dont vous parlez beaucoup entre vous qui s'appelle
Faster Than Memories.
Voilà, qui ne se joue qu'une seule fois. Moi, je n'ai jamais joué. Mais vraisemblablement, ça a l'air d'être une expérience.
Oui, c'est grosso modo une heure, je crois.
Une heure. Et du coup, cette expérience-là...
Oui, avec un enregistrement
oui,
MP3.
Oui, avec des enregistrements MP3, voilà. Qu'on écoute toutes les 5 minutes, 10 minutes.
Tous les 10-15 minutes, un truc comme ça. Et ils sont disponibles sur les ateliers imaginaires. Enfin, tout est disponible sur les ateliers imaginaires. Ça vaut vraiment le coup.
Voilà.
Et ça fait partie des jeux qui, pour moi, sont des pièges sur le contrat social.
D'accord,
un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, ils en disent peu sur ce que c'est vraiment.
Pas trop penser.
Et du coup, le jeu émerge.
En fait, je vais pas non plus rester sur ce que j'ai dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Passer une soirée pour expérimenter quelque chose, voilà, pour 10 euros, pour 5 euros, pour certains gratuits, alors qu'ils sont très bien travaillés. C'est pas déconnant, quoi. Au contraire, ça permet vraiment de. C'est comme aller voir un film un soir, comme c'est ce que tu disais, Romaric. Ouais.
Bah oui, c'est comme ça d'ailleurs que tu as fixé ton prix, je me souviens.
Mais bien sûr, non, mais c'est ça, quoi. Ouais.
Adrien.
Pour en revenir à ça, effectivement, un autre des, donc, sur l'aspect test, c'est vrai qu'il y a du. On peut faire beaucoup plus de tests, donc le jeu sera plus proche de ce qu'on veut faire. Ce qui est rigolo, c'est que par exemple, Éveil que je vous ai fait tester, quand je l'avais en tête, ça ressemblerait à une structure avec des. Parties qui se suivent, avec les personnages qu'on retrouve, avec l'histoire qui évolue en fond, mais chaque partie aurait une problématique.
D'accord.
Et là, en fait, en le faisant jouer, les parties sont beaucoup plus longues que ce à quoi je m'attendais.
D'accord.
Et donc, je pense que ma manière de concevoir le jeu sur la durée va changer. Et donc, ça sera moins genre 4 problématiques à explorer d'affilée, mais peut-être qu'il n'y en aura qu'une ou deux.
D'accord.
Et déjà, ça occupera un moment.
Donc voilà, moi personnellement j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder avec vous sur le one shot. Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous voudriez parler à travers les one shots? Un dernier point qu'on aurait oublié, parce que mon plan n'est pas celui que vous avez forcément en tête vous-même. J'ai l'impression qu'on a vraiment été
Il y a un truc qui me vient, c'est qu'en fait je pense que beaucoup de gens conçoivent des one shots comme je les ai conçus à une époque, c'est-à-dire autour d'un secret, autour
d'une pirouette
scénaristique, de tout ça.
Bah oui, comme la nouvelle, la nouvelle et le roman.
Et moi, il y a une époque où je m'étais posé la question pour certains d'entre eux de ce que j'avais écrit. Alors je ne l'ai pas fait par manque de temps, par d'autres projets qui avançaient, mais ça reste en idée, c'est que certains de ces scénarios-là, je pourrais les écrire en tant que jeu en soi.
D'accord.
Et donc je vous invite, vous qui avez vos scénarios à pirouette, vos one-shot, vos trucs qui marchent du tonnerre parce que vous avez des prêts tirés qui sont hauts en couleur, parce que ça se dure en une partie, vous faites jouer en convention, prenez le temps de le mettre en PDF, prenez le temps de le mettre en page, trouvez 3 illustrations, mettez-le sur Lulu, faites-en de la pub, venez le tester à la cellule.
Et voilà.
Faire le boulot de création d'un scénario comme ça, souvent, c'est faire le boulot de créateur de jeu. Il vous manque à créer une sorte d'uniformité et de ne plus copier-coller le système de Cthulhu mais, ou de copier-coller le système d'autres choses et de faire votre propre truc cohérent, quitte à vous en inspirer beaucoup, parce qu'au final, c'est ce qu'on fait tous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur jeu prêt à sortir et qui manquent juste de sortir les doigts, quoi.
Tout à fait. Et moi, je suis tellement...
C'est quoi cette manie de tout jamais finir l'expression
Je suis tellement d'accord avec toi, Adrien, vraiment.
Mais tu veux sortir de la poche, hein.
Je trouve ça super, parce que c'est une incitation aussi à créer, à gagner en confiance en soi et à se dire que c'est... si on est un bon créateur de scénario, au sens... si on est un bon créateur de partie, eh bien, on sera également un bon créateur de jeu.
Et surtout, ce qui pour moi est très fort, c'est que quelqu'un qui conçoit des scénarios, conçoit un scénario qui est là pour être joué par des joueurs. Et ce n'est pas quelqu'un qui va concevoir un univers parce qu'il a un super univers en tête, en mettant des règles parce qu'il faut mettre des règles, qui va nous faire un jeu classique où on va devoir faire tous des rillettes. Si vous nous proposez un scénario et que vous en faites un jeu, c'est quelque chose qui est jouable tel quel, qui est fonctionnel, qui est prévu pour marcher avec des joueurs et qui va proposer forcément une problématique parce que ça a été pensé pour, etc. etc.
Ah, c'est vrai. Dans un sens... Attends,
c'est Chloé... ça, c'est du prêt-à-porter du
Chloé,
jeu de rôle.
Je t'entends pas.
C'est...
du prêt à porter
du prêt à porter du jeu de rôle, en fait.
Il y a toute une gamme, je crois que c'est chez les 12 singes, qui s'appelle les jeux clés en main. Bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Oui, sauf que là, c'est des petites campagnes, ça peut se faire en one shot, ça sera des problématiques différentes, etc.
C'est très important, je trouve, de dire que finalement, la démarche de faire des one shot nous rapproche plus, on va dire, des qualités ou des propriétés nécessaires pour être un bon créateur de partie et donc de jeu que être un bon créateur d'univers qui nous rapprocherait plutôt d'être un bon auteur d'encyclopédie ou de roman, par exemple, si on veut par exemple à un moment donné faire vivre des personnages à l'intérieur. C'est très intéressant ce que tu dis là, Adrien, et ça nous fait une excellente conclusion, je trouve, pour ce podcast. Merci à vous d'avoir partagé votre expérience de meneur, de joueur et d'auteur. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. À bientôt tout le monde.
Merci.
À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut.
Bye.